Grand Dialogue.
Sigika Foba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigika Foba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. L'insécurité au Mali et particulièrement dans sa partie nord, la question reste malheureusement toujours d'actualité avec les attaques qui continuent ça et là. La dernière en date, c'est l'explosion d'une mine ce week-end à Tessalit dans la région de Kidal. Les bilans fait état de 3 civils tués et de 2 casques bleus blessés. Handicap International faisait d'ailleurs récemment remarquer que le recours aux explosifs improvisés par les terroristes continue d'augmenter. Selon toujours Handicap International, ce type d'explosion a fait plusieurs dizaines de victimes depuis le début de l'année. Comme on le constate, malgré les efforts en cours, l'insécurité demeure un casse-tête pour les autorités du Mali. Que faire pour mettre fin au statu quo? Les efforts déployés pour faire face à la situation sont-ils appropriés? Cette question cruciale a-t-elle été suffisamment débattue lors de la visite d'Ibeka à Paris? On est en droit de s'interroger, un droit que nous allons partager, nous allons donc exercer avec nos invités qui sont au nombre de 4. Ousmane Cornéo, spécialiste des questions sécuritaires au Sahel. André Bourgeot qui sera au téléphone, il est chercheur au CNRS à Paris, il est spécialiste du Sahel. Firoun Maïga est dans ce studio, il est de la plateforme. Nous aurons en ligne Mohamed Mahmoud qui est de la CMA. L'émission vous est présentée par Seydou Fomba. La violence fait toujours parler d'elle dans les septentrions maliens. Je vous le disais, 3 civils viennent d'être tués dans une explosion à Tessalit. La spirale continue toujours. Pourquoi ne parvient-on pas toujours à arrêter donc cette spirale jusque-là? Alors, je pose la question à vous d'abord, Ousmane Cornéo, vous qui êtes spécialiste des questions sécuritaires au Sahel.
Oui, merci Fomba. Ce que je vous fais remarquer par rapport à la situation sécuritaire actuellement au nord, c'est que moi, l'insécurité a changé de forme. Il n'y a plus d'attaques de camps, il n'y a plus d'attaques de villes. Mm-hmm. Il y a peut-être des explosifs qui sont placés, ça et là, en dehors des agglomérations. Ça veut dire que au moins, là, ça a changé de forme et la peur a changé de côté. Mm-hmm. Et ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que ce n'est surtout pas sûr que ceux qu'on appelle les rebelles qui aient posé ces armes, non, ces explosifs, il y a peut-être les terroristes, on peut le dire, mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que il y a eu dans le Nord tellement d'armes de toutes sortes qui aujourd'hui sont enfuies un peu partout et qui fait que même se déplacer dans le désert est un risque de monter sur un engin explosif, qui fait qu'il y a vraiment une nouvelle problématique, c'est d'identifier toutes ces caches d'armes et de pouvoir les déminer.
Firoun Omaïga de la plateforme.
Oui, merci beaucoup. Moi, je voudrais juste vous dire que insécurité zéro, ça n'existe pas. Mm-hmm. Il est sûr et certain que nous nous battons tous les jours pour qu'il y ait plus de sécurité, que les personnes soient beaucoup plus protégées, mais que l'État, dans sa mission régalienne, doit faire face à un défi majeur, mm-hmm. qui est le défi de ramener la sécurité. Il est très important de dire que nous sommes dans une phase où la plupart de ceux qui espéraient que le Mali n'allait pas retrouver son unité, les mouvements n'allaient pas se retrouver dans cette dynamique d'accord, les dessus et tous les autres là qui ne sont ni dans l'accord ni avec le Mali, qui ont un autre concept, vont réagir. Et ceci, c'est un impact fort. Au regard de tout le mode opératoire, on peut se dire qu'il y a d'autres enjeux, d'autres défis auxquels il faut faire face. Mais la sécurité, c'est comme ça. L'insécurité, dans un pays souverain comme le Mali, se doit d'être combattue.
Alors, Mohamed Mahmoud de la CMA est en ligne. Dites-nous, comment expliquer le fait qu'on ne parvienne pas à mettre un terme à la situation d'insécurité qui reste donc préoccupante dans le nord du Mali?
Merci, M. Fomba. Merci aux auditeurs. Et je salue aussi de passage tous les collègues qui sont sur le plateau. Et effectivement, cette sécurité ne pourrait pas finir comme ça, comme une baguette magique. Mm-hmm. Nous sommes dans un processus qui est en train d'évoluer positivement, mm-hmm. surtout surtout que maintenant, les deux acteurs qui sont la CEMA et la plateforme se retrouvent régulièrement par rapport à ces questions. Mm-hmm. Nous avons aussi l'administration qui travaille de son côté. Je pense que les gens, les uns et les autres vont s'habituer à travailler ensemble. Cependant, cette situation, vous savez, nous ne sommes pas les seuls acteurs dans le Nord, dans cette partie du pays. Et c'est pourquoi il urge que la mise en œuvre du programme se fasse avec une grande inclusivité pour que les acteurs aussi soient mis à l'écart ou mis en minorité pour qu'on les combatte ensemble. Mm-hmm. Je pense que si nous habituons à travailler ensemble, on trouvera la solution qu'il faudra pour réduire ces questions de sécurité.
Mm-hmm. Alors, nous avons André Bourgeot, le professeur André Bourgeot, qui est donc chercheur au CNRS à Paris. Il est en ligne. Dites-toi, monsieur Bourgeot, ça fait quand même longtemps qu'on évoque cette question avec vous et d'autres analystes. Alors, elle n'a toujours pas évolué. Comment vous expliquez cela?
Enfin, la situation est difficile, mais la première chose que je voudrais dire, c'est que j'observe, et ça c'est quasiment une constante, j'observe qu'à chaque fois qu'il y a une évolution dans les conditions d'application des accords de paix, ce qui est le cas là depuis à peu près 8-10 jours, à chaque fois que ça va dans ce sens-là, il y a de nouveaux acteurs qui interviennent et qui font en sorte que il existe des tentatives de sabotage justement de cette évolution. Mmh. C'est la première chose. La seconde chose, c'est quand même des mines. Donc, ça veut dire qu'ils utilisent de nouvelles techniques qui auparavant n'étaient pas utilisées d'une manière très, très, très fréquente. Donc, encore une fois, pour empêcher l'évolution, il y a eu des accords qui ont été faits au nom du pacte d'honneur et du contrat social entre la plateforme et la CEMA, ce qui est quand même un progrès énorme par rapport à la situation qui prévalait il y a 3 semaines ou 1 mois, quelque chose comme ça. Donc, c'était porteur d'espoir. Et à chaque fois que c'est porteur d'espoir, il y a des interventions extérieures qui font en sorte, qui font, le terme n'est pas trop fort en définitive, qui font une sorte de sabotage. Or, ce sabotage-là, il a probablement une interprétation. En tout cas, mon interprétation est la suivante, c'est qu'il y a des forces politiques et militaires au sens de l'utilisation d'armes, qui n'ont pas du tout intérêt à ce que la paix s'instaure d'une manière générale sur l'ensemble du territoire malien. Ce sera un petit peu la première analyse que je formulerai dans cette situation.
Ousmane Corneo, il y a récemment eu une opération militaire conjointe des FAMA et de Barkhane dans le cercle de Gourmararos après les violences subies par cette localité. L'opération a été concluante puisque des éléments du groupe terroriste El Mansour ont été arrêtés. Ne faut-il pas multiplier ce genre d'opérations?
Moi, je crois que la meilleure gestion, c'est la gestion préventive. Mm-hmm. Et cette opération a été faite après coup, après que la base de Gourmararos a été attaquée et qu'on ait perdu 10 hommes. Et je crois que la meilleure gestion aurait été d'anticiper, de mettre en place des dispositifs qui empêchèrent de cas. Maintenant, s'il faut attendre que nos éléments soient tués pour qu'on court après les tueurs, moi, je crois que c'est la chose après le.
Oui, moi je me dis, ce phénomène est connu. Nous avons sur l'ensemble du territoire malien aujourd'hui, que ce soit le sud et le nord, des groupes qui agissent au nom d'autres concepts qui n'ont rien à voir avec les accords que nous avons signés. Mm-hmm. Et ces gens-là, il faut faire face. De toutes les façons, le Mali, que ce soit avec Barkhane, avec l'AMINUSMA, sont en train de concocter quelque chose. Mm-hmm. Mais nous savons réellement qu'il faut faire face à ce problème, y compris la situation qui se passe à Bamako. L'insécurité existe à Bamako. Cette forme qui s'est passée à le djihadisme là-bas, on en crée. Peut-être que ça peut se faire ici à Bamako parce qu'il y a des courants. Je pense qu'aujourd'hui, les Maliens doivent comprendre que nous avons évolué et ce qui nous reste à contenir ou à dépasser, c'est de faire face au vrai problème du djihadisme. De tout cela qui utilise ce courant qui hier était sous couvert mouvement, aujourd'hui les mouvements sont sortis, ils se retrouvent, il faut que ça soit à nuit et qu'on trouve les moyens de pouvoir les contenir.
Alors Ousmane Kornéo le disait, il faut agir en amont, Firoun Maïga le disait, il faut faire face aux vrais problèmes. Alors je rappelle qu'il est de la plateforme. Alors vous, Mohamed Mahmoudou, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est quand même encourageant ce qui a été obtenu par cette opération conjointe Fama Barkhane?
Tout à fait, c'est une opération réussie. Cependant, il faut pas faire le tout sécuritaire au nord. Mm-hmm. Il y a des questions beaucoup plus globales qui se posent, hein, que ce soit à Gourmararous, hein, ou dans n'importe quelle autre localité de cette partie du pays. Et pour cela, je pense qu'il faudrait qu'on s'asseye, que les acteurs s'asseyent ensemble, qu'on essaye de, comme l'a dit Cornillon, d'anticiper un tout petit peu sur ce qui pourrait être des réponses qu'on pourrait apporter à des questions de risque par-ci par-là, en faisant à peu près une sorte de cartographie des grands risques, des petits risques, et ainsi de suite. Et ça, c'est une synergie de travail ensemble qu'il faudrait faire. Et répondre aussi concomitamment à un certain nombre de questions économiques, des questions de réinsertion, des questions d'emploi, des questions de développement économique. Donc je pense qu'il faut voir globalement la question au niveau de cette partie du pays.
André Boujour, des éléments du groupe terroriste El Mansour arrêtés suite à une opération menée par les Fama et Barkhane, qu'est-ce que cela vous dit?
Bon, c'est un progrès incontestable, mais je crois que le problème de fond est le suivant, c'est le problème de la circulation des armes, quelles que soient ces armes-là. À partir du moment où il y a des groupes identifiés ou pas identifiés qui peuvent se procurer des armes, ben, ça fait en sorte qu'effectivement, les conditions de contrôle sur la circulation des armes n'existant pas, n'importe quel groupe qui possède un peu d'argent peut se procurer des armes, et plus particulièrement dans ce cas, les mines, on ne sait pas, en tout cas moi je ne sais pas quels sont les groupes ou quels sont les individus qui les ont posés, parce que dans le contexte du Septentrion, c'est la porte ouverte à tout type d'activités, y compris des activités de type criminel. Et c'est la raison pour laquelle je disais tantôt que il y a des groupes qui n'ont pas du tout intérêt au retour de la paix et qui font du sabotage. Donc le problème majeur, c'est: est-ce qu'il y a possibilité de contrôler la circulation des armes et donc les conditions d'approvisionnement des armes? Tant que ce ne sera pas possible, eh ben ça, encore une fois, ce sera la porte ouverte à l'utilisation de ces armes. Alors, est-ce que les forces de sécurité, que ce soit Barkhane, MINUSMA, les différents groupes armés, etc., ont capacité à contrôler cette circulation des armes? Je n'en sais tout rien. J'observe en tout état de cause que les armes circulent librement. S'il n'y a pas possibilité d'enrayer d'une manière significative la circulation des armes, on sera toujours confronté à ce type de pratique.
Alors, tant que les armes circulent, il est donc difficile de maîtriser la situation, selon vous, disons André Bourgeot. Alors, Ousmane Kornéo, qu'est-ce que vous pensez de cela, la circulation des armes?
Oui, mais au Mali, on ne parle même plus de circulation d'armes. C'est qu'aujourd'hui, il y a tellement d'armes à tous les niveaux, au sud, au centre et au nord, abandonné par tout le monde, par les Fama dans leur repli stratégique, par les djihadistes après l'attaque de Kouana, par les groupes armés, à tel point que je dis que la priorité aujourd'hui dans la conquête de la paix et dans le pays, pas seulement au nord, c'est vraiment l'identification des caches d'armes, le désarmement à tout niveau, le déminage, et dans lequel et tous les groupes doivent contribuer. C'est-à-dire que tout le monde sait où est-ce qu'il a abandonné ses armes. Et que tout le monde puisse coopérer à identifier là où les armes sont cachées et là où les mines sont enterrées et essayer de les déterrer, les déminer, afin que l'espace soit désarmé. Je ne dis plus facile de désarmer les individus, mais c'est de désarmer l'espace. Parce qu'au Mali, aujourd'hui, c'est tout l'espace qui est armé.
Alors, il sera 18h30. Dans une trentaine de secondes, nous allons observer une pause.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
La situation sécuritaire au nord du Mali, c'est le thème du jour. Nous en parlons avec quatre invités. Ousmane Cornéo, spécialiste des questions sécuritaires au Sahel. André Bourgeot, chercheur au CNRS à Paris. Firoun Maïga, la plateforme ici présente dans ce studio. Mohamed Mahmoud de la CMA, lui, il est au téléphone. Alors, le cache d'armes, on en parlait tout de suite. Dites-nous, vous, Firoun Maïga, est-ce qu'il n'urge pas, n'est-il pas urgent d'identifier, comme le disait Cornéo, les caches d'armes?
Oui, moi je pense que c'est une question qu'il faut pouvoir traiter et pouvoir le mettre dans, comme l'a dit Mahmoud, il faut le mettre dans un débat global pour essayer de faire une analyse complète de la situation sécuritaire et de voir quels sont les besoins et quelles sont les capacités à mettre en œuvre, à renforcer pour qu'aujourd'hui on se retrouve dans une dynamique commune. En fait, la question des armes, la circulation des armes est un fait, c'est un constat. Et aujourd'hui, quelles que soient les politiques qu'on va développer, si un certain nombre de préalables ne sont pas réunis, je ne pense pas qu'on puisse avoir accès. D'abord, on vient de signer un accord, on est vers la mise en œuvre de cet accord, ça c'est un grand pas. Le cantonnement va être bientôt, si les conditions sont réunies, les conditions d'accompagnement sont faites. Je pense que si réellement la volonté politique de l'État malien, l'engagement des mouvements concerné par rapport à l'accompagnement de la communauté internationale, à un moment donné, le Mali se retrouverait dans une position stratégique acceptable pour dire on fait face cette fois-ci peut-être qu'au problème de prolifération des armes légères. Maintenant, comment est-ce qu'il faut serrer les actions? Comment il faut, au niveau communautaire, procéder à un désarmement? Comment il faut désarmer les vigiles, les bandits, tous ceux qui sont en train de le faire? Quelle stratégie il faut mettre? Je pense que c'est une réflexion globale. Mais d'une baguette magique, aujourd'hui, dire que parce que les mouvements ont signé l'accord, l'État malien, l'armée malienne avec Barkhane sont en mesure, je pense que les armes circulent, mais on ne les voit pas. On les voit au moment où ils causent des dégâts. Et je pense que cette anticipation, une anticipation, comme je peux le dire, va nous permettre peut-être d'identifier, de serrer et en ce moment faire des opérations de pointe qui peuvent peut-être nous permettre d'aller. Mais c'est une action globale. Vraiment, c'est une action globale. Il faut que l'État assume ses responsabilités, qu'elle crée les conditions. Il faut une volonté politique de l'État. Parce que ce n'est pas les populations. Tout le monde veut que ces armes quittent la circulation. Mais il faut que l'État prennent la responsabilité avec les autres partenaires concernés et surtout aujourd'hui dans le cadre de cette mise en œuvre pour aboutir. C'est faisable, c'est possible et les Maliens sont capables de le faire.
Alors, des armes qui circulent donc librement au nord du pays, c'est un problème, Mohamed Mahmoud. Ne faut-il pas trouver un moyen quand même de pouvoir contrôler cette situation?
Bon, la prolifération des armes n'est pas un phénomène nouveau dans le nord du Mali. Et c'est quelque chose que moi je dirais que même qui est devenu récurrent et qui s'amplifie, qui s'est amplifié ces dernières années. Mais toutefois, ces prises d'armes, ces circulations d'armes, ces usages d'armes sont venus à la suite d'un certain nombre de problèmes que vivent les populations, que revendiquent certaines parties de la population, soit à travers les mouvements rebelles ou soit à travers les mouvements djihadistes. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un ensemble d'acteurs qui peuvent se mettre ensemble pour trouver une réponse à cela. Et il va falloir mettre ces acteurs en place, créer une dynamique, créer une synergie pour discuter, de voir comment est-ce qu'on peut trouver une réponse, comme l'a dit Furon, globale à ce problème, en répondant à des problèmes concrets, à des situations concrètes au niveau du Nord, pour voir comment est-ce qu'on peut diminuer et trouver même une stratégie de débarrasser le Nord de ses armes. C'est une tâche difficile, mais ça demande d'abord un engagement de tous les acteurs, de toutes les parties. Et en premier lieu, le Mali et les organisations qui sont venues aider ce pays par rapport à la reconquête du territoire, à la sécurisation du territoire. Il va falloir travailler vraiment en parfaite harmonie, et en parfaite harmonie aussi avec les mouvements. Mais cela se fait vraiment dans un cadre de confiance, dans un cadre de grande complicité entre tous les acteurs. Et ça demande un processus et une pédagogie soutenue, et une pédagogie aussi soutenue politiquement,
par le gouvernement et par toutes les bonnes volontés.
Alors, nous allons maintenant aller à Paris, rejoindre André Bourgeot. Alors, dites-nous, monsieur Bourgeot, la sécurisation du Nord passe certainement, forcément, par la maîtrise de la circulation des armes.
Oui, pas uniquement, mais l'approche globale, bien évidemment. Mmh. Mais il ne faut pas minimiser le fait qu'il y a quasiment des interactions de type organique entre la circulation des armes et la circulation de la drogue. Mmh. C'est une des raisons pour lesquelles je considère, je pense que l'enjeu majeur pour la restauration de la paix et le retour à une situation normale doit privilégier justement ce problème de la drogue et qui existe quand même dans les septentrions maliens depuis au moins 7 ou 8 ans. Encore une fois, j'insiste sur le fait que généralement, quand il y a circulation des armes, c'est en interaction aussi avec la drogue. Donc ça implique une politique globale, mais cette politique globale, elle va quand même s'exercer aussi sur des secteurs et avec des acteurs particuliers. Donc tant que ce problème ne sera pas résolu, celui de la drogue et de la circulation des armes, toutes les bonnes volontés du monde, y compris dans les déclarations d'intention, seront neutralisées justement par tous ces trafiquants et par tous ces trafics. Alors est-ce que l'État malien actuellement a capacité et à engager une volonté politique, mais faudrait-il encore qu'elle s'exprime d'une manière claire sur les conditions de circulation des armes en interaction avec la drogue. Je suppose que ces réseaux sont connus, que les acteurs, c'est-à-dire ceux qui acheminent la drogue et qui sont aussi dans le trafic d'armes, sont parfaitement identifiables par les autorités, mais aussi par certains éléments du mouvement. Les mouvements, ils se sont procurés des armes. Donc ils savent très bien aussi comment eux-mêmes se sont procurés des armes. Et donc il y a des relations. Je ne dis pas qu'actuellement il y a des relations de complicité, mais il y a possibilité de s'appuyer justement sur ceux qui se sont procurés des armes par le trafic des armes pour essayer d'engager une lutte, prioritaire contre le trafic d'armes et le trafic de drogue.
Chaque fois que les terroristes frappent, chacun insiste sur la nécessité de mettre en œuvre l'accord de paix. Apparemment, cette mise en œuvre prendra son temps, le processus s'avérant quand même compliqué et complexe. En attendant, ce sont quand même des localités entières qui sont exposées. Est-ce que la communauté internationale a conscience de la gravité de cette situation, André Cornéo?
Oui, je crois qu'il ne s'agit pas de la communauté internationale seulement. Tout le monde a aussi conscience que plus ça dure, plus ça se complique. Parce que aujourd'hui, la plateforme et la CMA qu'on voit, ce sont les dirigeants qu'on voit, les responsables politiques et militaires. Mais les populations qui sont au nord, ces populations-là croupissent dans la misère.
Tout à fait.
Et qui sont beaucoup plus pressées. Dans la mesure où ils ne dorment pas dans des hôtels. Et la plupart du temps, moi j'analyse parfois certaines attaques qui sont faites, par exemple les coupeurs de route ou bien ceux qui viennent dans des magasins, dévaliser ces magasins-là. Mais pour moi, c'est des problèmes de survie. C'est des gens qui meurent de faim, des gens qui meurent de soif. Ce ne sont pas des gens qui dorment dans les hôtels. Donc plus ça dure, plus ces gens continuent à souffrir. Et plus ces gens, ils vont s'adonner à des actes, qu'on va dire des actes de terrorisme. Moi, j'ai dit des actes de banditisme, mais ce sont des actes de chirurgie.
Vous voulez dire qu'il y en a un peu de tout là-dedans?
Non, il y a un peu de tout là-dedans. Et quand je vois des coupeurs de route qui viennent, qui arrêtent des véhicules, qui prennent les marchandises, et qui ne font rien aux occupants, bon, peut-être qu'on peut dire que c'est du terrorisme. Moi, je crois que ça, c'est la lutte pour la survie. C'est des gens pour lesquels, depuis 2012, et qu'il y a les événements, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, il n'y a pas d'électricité. Donc, il faut se poser la question, comment ils vivent et de quoi ils vivent. Et qui fait que plus la situation dure, et quand on voit derrière l'accord, on voit qu'il y a 70 jours après, 30 jours après, mais qui ne sont pas encore respectés. Mm-hmm. Ça veut dire que cet allongement des délais est vraiment au détriment de ces populations qui croupissent dans la misère.
Après Ousmane Kouanio, nous donnons la parole à Firoun Maïga de la plateforme.
Oui, merci beaucoup. Moi, je me dis que c'est vrai qu'on a des préoccupations. On veut résoudre un problème. Mais écoutez, piquer un véhicule à Bamako, que ce soit ici à Medinakura où nous sommes, ou bien que ce soit la nuit au Grand Marché, ou bien faire un pickpocket, ou bien arrêter un véhicule sur Gundam, Tombouctou, ailleurs, mais ça revient à la même chose. L'acte, c'est le même. C'est des coupeurs de route, c'est des bandits, ça existe. Je me dis aujourd'hui, les partenaires qui sont venus nous aider, sont venus assister le Mali, l'accompagner. Il est de la responsabilité du gouvernement du Mali d'afficher une politique claire en matière de sécurisation, en partenariat avec ses autres frères avec lesquels ils ont signé. Et je parle des autres acteurs de la plateforme, de la CEMA, dans le cadre de l'accord. Donc, je suis certain que les responsabilités à tout niveau seront situées si réellement dans la mise en œuvre des problèmes réels sont posés et des solutions sont recherchées. Donc la question de lutter, de diminuer, parce que bon, on cherche à diminuer. Aujourd'hui, nous sommes partis de loin. Et on revient à une presque normale. Vous venez de dire qu'il n'y a plus d'attaques avec les mouvements, ni l'État, ni les autres. Mais aujourd'hui, les attaques et les coupeurs de route, c'est par rapport à d'autres systèmes qui ne sont pas à la charge des mouvements. Hier, on allait dire que c'est l'ACMA, on allait dire que c'est aujourd'hui. Je suis heureux qu'on sache que ce n'est pas eux, mais on indique d'autres. Ça veut dire qu'il y a une amélioration. Mais le problème, c'est qu'on se retrouve dans la mise en œuvre de l'accord. C'est vrai que Cornio a parlé d'un calendrier. Si le calendrier venait à prendre du temps, s'il y a une lenteur, mais il faut aussi poser la question que fait le gouvernement du Mali pour qu'il y ait une accélération dans le processus. Elle a sa responsabilité engagée. Et ce n'est pas les autres partis qui diront non, parce que nous sommes aussi pressés que les populations puissent vaguer à leur enfer et que le développement tel qu'on le souhaite puisse venir. Donc je ne pense pas que le problème soit perçu comme si le calendrier qui n'est pas observé, tout ceci, peut être un problème qui peut impacter sur... Non, il faut qu'il y ait une volonté de part et d'autre. Et je sais que la volonté existe d'une partie, il faut qu'elle existe de l'autre côté. Et nous avons un droit, vous savez, quand on parle du gouvernement, parce que nous parlons du gouvernement malien, nous sommes tous. Donc en tant que citoyen, nous sommes obligés de lui demander de prendre ses responsabilités dans la décision, dans la mise en œuvre de cet accord dont il est responsable. Il est le premier d'ailleurs responsable, celui qui doit le mettre en œuvre. Donc en ce moment, je pense que si on arrive pas à pas, on va y apparaître aussi par élimination.
Alors, face à la situation d'insécurité dans certaines localités du pays, les autorités maliennes doivent prendre leurs responsabilités, toutes les parties impliquées doivent prendre leurs responsabilités, mais il y a la communauté international aussi. Mohamed Mahamoud, ne pensez-vous pas qu'elle aussi doit prendre ses responsabilités, la communauté internationale?
Non, moi j'ai toujours dit que, effectivement, dans le Nord, il n'est pas aisé. Les gens croupissent, comme dit quelqu'un, dans la précarité. Et ce n'est pas agréable pour tout un chacun d'utiliser une arme pour essayer de se nourrir. Et je pense, au-delà de responsabilités, au-delà de la situation vraiment précaire du Nord, la communauté internationale a fait beaucoup d'efforts en aidant, en facilitant le processus de négociation, de dialogue jusqu'à arriver à l'accord. Je pense qu'aussi, ils facilitent toujours, ils accompagnent dans la mise en œuvre. Il serait bon que les acteurs se mettent ensemble, qu'ils travaillent. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, même si depuis le 20, il y a eu une signature, il n'y a pas grand-chose au niveau du terrain par rapport aux réponses, surtout dans le cadre de l'humanitaire, de l'ouverture des écoles, de la santé, de l'éducation. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce niveau. Et là, le gouvernement, avec un plan bien élaboré, bien réfléchi, et avec ses partenaires techniques et financiers, devrait trouver des réponses immédiates à un certain nombre de demandes sociales au niveau des régions du Nord pour que les gens commencent d'abord à croire à cet accord, à avoir la confiance et peut-être mobiliser des jeunes qui vont rentrer dans la dynamique au lieu de chercher à être des coupeurs de tête ou être recrutés par d'autres réseaux, soit de l'économie criminelle ou l'économie des djihadistes.
Alors, nous allons à Paris encore retrouver André Bourgeot. Dites-nous, monsieur Bourgeot, on sait bien effectivement que la responsabilité par rapport à la situation d'insécurité qui prévaut incombe aux autorités maliennes en premier lieu. Mais dites-nous, est-ce que vous pensez que la communauté internationale fait de son mieux pour faire face à cette situation?
Oui,
Oui, bon, la communauté internationale, si vous faites référence à l'ANINISMA a été critiquée dans le passé. Elle a publié aussi un rapport qui a eu tendance à réhabiliter beaucoup de choses. Bon, la communauté internationale, elle est là, donc elle fait son travail, il faut s'appuyer dessus. Mais ce que je voudrais dire, c'est que une des faiblesses des accords de paix, dits accords d'Alger, c'est que, de ce que j'ai lu, ils n'ont pas pris en considération le contexte global dans lequel ces accords d'Alger, ces accords de paix doivent s'appliquer. J'observe, mais je vois ça un petit peu de l'extérieur, mais je lis quand même aussi beaucoup de choses qui se passent au Mali, il y a une prolifération de banditisme, d'actes de banditisme. Or, les actes de banditisme, les activités criminelles, elles relèvent justement de fonctions de police. Donc, le problème, il est là. Cette prolifération d'actes de banditisme n'a pas été prise en compte au moment des accords d'Alger. On a privilégié les mouvements armés à juste titre. Ce n'était pas pensable que ce soit décontextualisé à ce point. À chaque fois que j'ai posé la question à quelqu'un qui était aux accords, je lui ai dit, mais est-ce que vous avez pris en considération le problème de la drogue? On m'a répondu publiquement, non, on ne l'a pas pris en considération parce que ce n'était pas à l'ordre du jour, ce n'était pas l'objet des réunions, etc. Donc moi j'ai pensé quand même que c'était un peu grave de décontextualiser ces accords sans prendre en compte le fait que l'État n'était plus présent dans le septentrion depuis déjà plusieurs années, que c'était une zone de non-droit ouverte à tous les abus. Donc comment voulez-vous que ces accords s'appliquent tant qu'il n'y a pas éradication d'activités criminelles et d'actes de banditisme? C'est pas possible. D'autant que, à chaque fois, encore une fois, qu'il y a évolution dans les conditions d'application de l'accord, et c'est le cas actuellement, immédiatement après, on a soit une recrudescence des actes commis par les groupes armés narco-djihadistes, soit par le banditisme qui est loin d'être un banditisme résiduel. Alors dans ce contexte-là, tout se combine. C'est la raison pour laquelle c'est extrêmement difficile. Comment identifier qui fait quoi et quoi fait qui avec qui? Il y a des règlements de compte, il y a tout un tas, il y a des groupes et des individus qui profitent justement de cette situation qui est insécure. Donc tant qu'on n'aura pas capacité militaire, policière et politique d'appréhender tous ces problèmes-là d'une manière globale, je crains fort que le contenu des accords de paix soit difficile à appliquer.
La suite de ces débats dans un instant.
Une réaction?
Un avis?
Un commentaire?
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
André Bourgeot était tout à l'heure en ligne. Vous êtes en studio ici, Ousmane Corneo, vous l'avez entendu. Alors, il semble quand même que certaines choses n'ont pas été prises en compte par rapport à l'accord et lui l'expliquerait certains dérapages par ce fait. Est-ce que vous partagez cette opinion?
Oui, mais ce que je voulais dire à M. Bourgeot, c'est qu'en fait que la situation du trafic de drogue au nord est peut-être même à la base de la situation que nous vivons actuellement. Avant 2012, moi j'avais réalisé une étude sur la circulation, la prolifération des armes au Mali. Et le constat qui est ressorti de cette étude, c'est que la plupart des armes qui circulaient au Mali convergeaient et allaient s'accumuler au nord. Et quand on a prolongé les enquêtes, on s'est rendu compte que ces armes servaient à sécuriser une activité criminelle qui était l'activité de drogue. Bien, quand il y a eu cette crise dont je parle aujourd'hui, qui a causé aujourd'hui pour les populations qui n'ont pas voulu se déplacer, une situation de vie précaire, ben il faut se poser la question, comment ces gens ils vivent? Et ceux qui ont refusé de partir, comment ils vivent? Ils sont obligés de faire quelque chose pour vivre. Et je crois que la mise en œuvre de cet accord doit permettre, à mon humble avis, d'abord de cantonner ceux qui souhaiteraient être cantonnés, de faire des propositions de réinsertion à des jeunes qui sont entraînés par cette activité criminelle de drogue. Et je crois que tout ceci pourra nous amener à ensuite faire face à cette activité. On ne peut pas commencer par faire face sans proposer une certaine alternative aux gens, aux jeunes qui vivent et qui sont obligés de vivre de quelque chose. Donc moi, pour moi, dans la démarche, on doit d'abord proposer une alternative d'activité économique et dans la région qui puisse résorber cette misère et qui puisse détourner les jeunes. Et en ce temps, ensemble, toutes les parties pourront essayer de coordonner leurs actions contre cette activité de circulation des armes et puis de la drogue. Sinon, on ne peut pas commencer par lutter contre la drogue et sans proposer une alternative à ces jeunes-là.
Firoun Omaïga de la plateforme.
Oui, je peux dire le trafic de drogue ou pas. Je veux juste revenir sur les fondamentaux. Il y a des questions politiques qui ont amené à un certain moment des Maliens qui sont en rupture avec, l'État central pour des raisons économiques, pour des raisons sociales, à prendre les responsabilités et dire nous ne sommes pas d'accord et nous utilisons les moyens que nous avions à notre disposition pour le faire. Je pense que cette question, il faut la comprendre dans ce sens-là. Le trafic de drogue, la circulation, les ventes d'armes, c'est vrai, depuis quand l'État était dans une situation d'État apaisé, le constat était que cette circulation, ce truc se faisait. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Donc on ne peut pas mettre les deux au même niveau et se dire que c'est l'autre qui a affecté l'autre. Non, il y a des gens, excusez-moi, qui ont pris les armes pour dire à l'État malien, nous ne sommes plus d'accord dans cette manière de faire et nous allons le montrer, c'est notre façon et c'est ce qui nous a amené aux accords. Donc faites la part des choses. Maintenant, pendant les accords, il a été décidé la question de lutte contre le terrorisme. On ne l'a pas mis comme un point, mais je pense qu'il y a un point qui détermine clairement la position de la communauté internationale et du gouvernement du Mali à lutter contre le terrorisme, le banditisme et tout ce qui s'ensuit. Ça existe dans l'accord. Donc, le principe de lutter contre le terrorisme, le principe de lutter contre la circulation des armes et consorts, elle est de fait, c'est dans l'accord. Et tous les acteurs se sont engagés là-dessus. Je veux simplement dire que tout ce qu'on va faire ensemble, de manière globale, comme tout le monde le dit, j'ai entendu mon frère le répéter plusieurs fois et Bourgeot aussi revenir là-dessus, la question de la sécurité, la question de la police dont il est question est une question aussi qu'il faut analyser de manière globale parce qu'il y a des acteurs qui vont mettre leur synergie et leurs compétences ensemble pour relever les défis futurs qui vont revenir. C'est vrai qu'il y a des questions endogènes, exogènes, comme on le dit, qui sont des problèmes qui sont liés à la survie de tous les jours. La sécurité, on le construit tous les jours. Et je pense qu'à ce niveau-là, l'accord, si elle est mise en œuvre le plus rapidement possible avec un engagement de toutes les parties, mais un engagement encore avec un grand bémol de la part du gouvernement, à vous donner une lisibilité, une clarté dans la façon de faire et à accompagner le processus dans une démarche comme nous le souhaitons, parce que nous sommes tous ensemble, je pense qu'on arriverait à bon port.
Mohamed Mahmoud, je rappelle que vous êtes de la CMA. Alors dites-nous, les armes et la drogue, c'est une connexion dangereuse qui complique la situation au nord du Mali?
Bon, vous savez, ça c'est un vieux débat dans la zone. Contrairement à votre invité de Paris, moi je pense que la question de défense a été, et de sécurité, a été débattu au cours de du processus. Et dans cela, on a suffisamment parlé dans les différents ateliers de cette question de drogue, de narcotrafic, de narcoterrorisme et comment s'y prendre. Je pense qu'il ne faut pas l'isoler du contexte. Il faut prendre le contexte de façon globale et trouver des réponses globales. Il faut qu'on ait des réponses ambitieuses par rapport à ces régions du Nord. Il faut s'engager à transformer ces régions, à les transformer économiquement. Il faut trouver des réponses restructurantes pour ces régions. Parce que ces questions de narcoterrorisme, de narcotrafic et de la prolifération des armes sont des choses tout à fait nouvelles dans les régions et qui ne sont pas à pratiquer parce que les gens veulent le faire. Mais ils cherchent à trouver des réponses à des questions de précarité, à des questions d'existence. Pas les accepter, pensons qu'il faut trouver des réponses beaucoup plus globales que des réponses sécuritaires. Et pour cela, ce programme, ce rapport, cet accord de paix, dans son contenu, un certain nombre d'actions, des plans de développement, des plans institutionnels, des plans politiques, il faudrait s'y mettre, il faudrait les appliquer, il faudrait trouver les moyens nécessaires pour le faire rapidement, pour que les acteurs aient confiance. Parce que
qu'aujourd'hui, les citoyens, où qu'ils soient, a besoin d'avoir confiance à son État central, a besoin d'avoir, de voir un État qui transpire une sorte d'équité, une sorte de justice, une sorte de, vraiment d'État qui délivre hein, des services sociaux, des services économiques. Tant que ceci n'arrive pas à être compris, ou à être vécu par les populations, c'est très, très difficile de trouver une réponse que sécuritaire à ce problème. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait faire comprendre aux gens. C'est dommage que dans le Nord, c'est comme ça, mais c'est la réalité, c'est que les synergies doivent être là, entre tous les acteurs, et pour trouver les réponses idoines par rapport à toutes ces questions, que ce soit du narcotrafic, du terrorisme ou de la préfiguration des armes.
Nous avons à présent 4 minutes pour faire un dernier tour d'étape. Ce n'est pas forcément aisé. Alors, les travaux de la 4e conférence technique de sécurité du comité de suivi de l'accord de paix viennent de prendre fin. On y a mis il est question de la zone de sécurité établie par l'aménagement. On y a mis fin. La question des sites de cantonnement a été effectivement évoquée. Certains sites ont même été validés. On peut à présent parler d'avancée, Monsieur Cornéo Ousmane.
Oui, c'est vraiment une véritable avancée. D'abord, je rappelle que cette zone d'exclusion, ce ne sont pas les groupes armés qui ont créé cette zone d'exclusion, c'est l'aménagement qui l'a créée. Et je suis content que les deux groupes, en contact avec l'aménagement, aient décidé de la libre circulation. Ça veut dire qu'il y a une véritable avancée. Aussi, le cantonnement qui est en train de se dessiner avec l'identification des sites de cantonnement, va d'une bonne exécution de l'accord. Parce que tant qu'il n'y a pas de cantonnement de ces groupes armés, qu'on sache qui est armé et relevant des groupes armés et qui ne l'est pas, je crois qu'encore que le problème reste total. Donc je crois qu'il y a vraiment une véritable avancée dans la mise en œuvre de l'accord.
À présent, la parole est à Firoun Maïga.
Oui, moi je voulais juste vous dire que le fait de se retrouver, je tiens juste à vous informer que la plateforme est à Kidal. À l'heure actuelle, il y a des réunions qui sont en train de se tenir avec les gens, les membres de la plateforme, de la CEMA, la société civile, les femmes, pour essayer de créer cette symbiose-là dont on a toujours besoin au Nord. Et ça a apaisé parce que c'est de partout. Les dirigeants de la plateforme et de la CEMA sont partis partout vers le Nord, vers Menaka et consorts, en train de rassurer les populations sur le bien fondé de cet engagement que nous avons eu à prendre. C'est d'abord une avancée considérable. Bon, maintenant, le cantonnement, le processus, vous le savez, on vient de quitter la CTS aujourd'hui, donc il n'y a pas de problème. Les choses sont en train de partir. Encore, je dis au gouvernement d'utiliser l'essentiel de ce qu'il peut avoir pour mettre les gens en confiance et que tout le monde soit au travail pour qu'on puisse finir avec.
Mohamed Mahmoud, la CMA, juste en deux mots, ce dossier du cantonnement, juste deux mots.
Oui, effectivement, comme tous les autres, nous avons connu des grandes avancées et le cantonnement, on va le faire de la façon la plus aussi efficace que possible. On va répondre, nous pensons que ça va aussi apporter des réponses à un certain nombre de questions, hein, et surtout pour bâtir la confiance entre les différents acteurs.
Alors, à Paris, où se trouve André Bourgeot, le professeur, le chercheur au CNRS, nous allons donc lui donner la parole et il va donc tirer les conclusions de ce débat.
Oui, ce ne sera certainement pas une conclusion définitive. Encore une fois, le contexte malien, il renvoie à un affaiblissement généralisé de l'État et de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Et tant que cette autorité-là ne sera pas restaurée avec des moyens appropriés, eh ben, on sera toujours confronté à cette situation. Et les avancées que tous les intervenants ont mentionnées risquent d'être fragilisées. Je crois qu'il y aurait une symbolique particulièrement forte et particulièrement significative si, par exemple, à Kidal, d'après ce que l'on a dit il y a encore quelques jours, le drapeau malien ne flotte pas encore à Kidal. Je crois que si le drapeau malien flotterait à Kidal, ce serait symboliquement extrêmement significatif et ça pourrait créer les conditions de la cohésion, un retour à la cohésion sociale et politique.
Merci donc à vous, André Cornéo. Je rappelle que le sujet du jour, c'était la situation sécuritaire dans le pays. Nous avions donc quatre invités. Ousmane Cornéo, qui est spécialiste des questions sécuritaires au Sahel, était présent dans ce studio. Firoun Maïga, également présent dans ce studio, il est de la plateforme. Nous avions Ali Mohamed Mahmoud, il est de la CEMA, de même que André Bourgeot, qui est chercheur au CNRS à Paris, il est spécialiste du Sahel. L'émission vous a été présentée par Seydou Fomba, à la mise en onde Gagné Kanté, régie vidéo Seydoumbo, réalisation Ayouba Sow. On se donne rendez-vous demain pour un autre débat.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Haloud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.